Merci. Bonjour à chacun. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière fois où vous avez rencontré un ami proche que vous n'aviez pas vu depuis assez longtemps? Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous lui avez raconté? Ça fait quelques années que vous ne l'avez pas vu et vous avez une soirée avec lui. Et de quoi vous parlez? Est-ce que vous attaquez jour 1, menu 1, au petit déjeuner? C'était un jour avec des lardons. Les enfants n'étaient pas contents. Et etc. Et ça continue et ça continue. Où est-ce que vous choisissez ce que vous rencontrez? J'ai un ami assez proche, qui m'est particulièrement proche. En fait, il est celui qui veille sur moi. Il est celui qui m'écoute, qui veille sur mon ministère, sur ma vie spirituelle, celui qui veille sur ma vie de famille aussi, celui qui veille sur ma santé. Et je le vois 4-5 fois par an. On se rencontre toujours à la même occasion. En fait, on travaille ensemble à Évangile 21 et on a 4-5 rencontres par an à Genève. Et quand on arrive à Genève, il y a vraiment un truc, c'est qu'on connaît pas mal de monde, on croise des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et tiens, tu viens manger avec moi, tiens, on va faire ça, etc. Et on a une règle. Le premier soir, c'est personne. On passe cette soirée-là où on mange tous les deux et il n'y a personne d'autre. Et puis là, ben, j'ai un temps où je dois lui raconter à ce qui se passe dans ma vie. Mais en fait, je ne lui raconte pas tout. Je lui raconte les choses qui sont significatives, les choses qui vont l'aider à comprendre ce que je suis en train de vivre, les choses qui montrent la direction dans laquelle je vais. Et je sélectionne quelques événements, quelques faits qui vont l'aider à comprendre ce que je suis en train de vivre et comment il va pouvoir prier pour moi, comment il va pouvoir m'accompagner. C'est ce que fait Luc. Il ne nous raconte pas tout ce qu'il y aurait à dire sur Jésus. Il ne nous raconte pas par le menu détail toutes les journées de la vie de Jésus. Derrière chaque séquence, il y a une intention. Il y a un message qu'il veut que nous comprenions. Et en fait, aujourd'hui, comme dans tous les autres textes que nous allons lire dans l'évangile de Luc, il veut nous dire quelque chose. Il veut se servir de cet événement qui est un peu le message inaugural du ministère de Jésus pour nous parler. Il veut nous dire que la bonne nouvelle qui sera au cœur du ministère de Jésus nous conduira au rejet ou à l'adoration. Et je vous propose qu'on puisse lire ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 4 à partir du verset 14. Si vous avez la même version que moi, vous êtes page 663. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « Et c'est pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Et il leur dit encore, « Je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. » Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé pendant 3 ans et 6 mois. Et il y eut une grande famine sur tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Et il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'entre eux n'a été purifié, mais seulement Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Avant de rentrer vraiment dans le texte, je voudrais faire deux remarques introductives. En fait, quand nous regardons ce chapitre 4, il nous est dit qu'il y a une étroite connexion entre l'Esprit et la parole de Dieu. Dans l'épisode de la tentation que l'on a vu la semaine passée, il nous est dit au verset 1 que l'Esprit, que Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et c'est en citant la parole de Dieu que Jésus répond à la tentation. Aujourd'hui, dans notre texte, c'est l'Esprit qui le conduit à revenir en Galilée et Jésus va entamer son ministère en citant la parole de Dieu. Il va enseigner Ésaïe. Dans la dernière section de ce chapitre, nous voyons que Jésus continue encore d'enseigner avec autorité et il chasse un esprit mauvais. Et les gens s'étonnent, ils disent mais quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits et ils sortent. Et en fait, nous découvrons que l'esprit et la parole sont très intimement liés. En fait, ils vont ensemble dans tout le ministère de Jésus. C'est par la parole que l'esprit agit, c'est par l'esprit que la parole possède la puissance de toucher, de changer les cœurs, de transformer les vies. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et en fait, plus que ça, quand nous découvrons tout l'évangile de Luc, nous voyons que le ministère de Jésus, c'est le ministère de la Trinité. C'est Dieu qui est présent en arrière-plan dans tout ce livre, qui envoie Jésus, qui parle et agit par le Saint-Esprit. Le ministère de Jésus n'est pas un ministère isolé de la personne de Dieu, il est Dieu qui vient sur terre et qui agit. Une seconde remarque, que ce soit dans la semaine dernière avec le récit de la tentation ou aujourd'hui, le texte nous précise que cela se passe en Galilée. Et en fait, jusqu'au chapitre 9, le ministère de Jésus va se passer principalement en Galilée. En fait, non. Le ministère de Jésus ne débute pas en Galilée, on sait qu'il ne débute pas en Galilée, mais en Judée. Mais Luc va se servir de la Galilée pour nous montrer quelque chose d'un petit peu particulier. Et puis au chapitre 9, il y a un tournant. Jésus se tourne résolument vers Jérusalem et nous le voyons qui se dirige vers la croix avec toujours ce refrain qui reviendra. Jésus va à Jérusalem, Jésus va à Jérusalem. Et toujours on aura cette notion que Jésus va consciemment vers la croix à Jérusalem. Alors c'est quoi la Galilée? En fait, la Galilée, ça fait partie de l'ancien royaume du Nord. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. 1000 ans avant Jésus, on a David, le grand roi. Le grand roi qui a uni le pays, donc on a un pays qui est uni, qui s'appelle Israël. David a un fils, ce fils monte sur le trône, Salomon. Salomon a un descendant qui monte sur le trône, et là, ça se passe mal. À cause de la dureté de Roboam, le pays est divisé en deux et nous avons un royaume au nord avec 10 tribus et puis un royaume au sud avec 2 tribus. Au sud, les rois sont pas toujours bons, mais pas toujours mauvais non plus. Au nord, c'est une succession de mauvais rois, tous les plus mauvais les uns que les autres. Et des prophètes sont envoyés au nord par le Dieu pour les prévenir, pour leur dire « mais ça va mal se passer. Si vous ne revenez pas à Dieu, ça va mal se passer. » Mais à quelques exceptions près, ils ne les ont pas écoutés. Et en fait, le Nord est marqué par l'incrédulité du peuple à la parole de Dieu. Dieu parle par ses prophètes, mais au nord, personne ne l'écoute vraiment. Revenons au texte. Après un début de ministère de Jésus que Luc ne nous raconte pas, Jésus revient dans le village où il a grandi. Il est avec les enfants qui ont joué avec lui. Et ils ont maintenant une trentaine d'années. Ils sont sans doute les personnes qui ont passé le plus de temps avec Jésus durant son vivant. Mais vers l'âge de 30 ans, Jésus a quitté son village. Il est parti pour débuter son ministère. Et revêtu de la puissance de l'Esprit, il nous est dit, il a commencé à arpenter la Judée. Il est passé de synagogue en synagogue et il enseigne. Et malgré le fait que Twitter, Facebook, TikTok ne soient pas encore là, la réputation de Jésus gagne toute la région. Et maintenant, l'enfant chéri est de retour dans son village. Cet enfant qui était sans doute pas comme les autres, on l'imagine bien, cet enfant qui fait parler de lui partout ailleurs, revient. Il est là, dans son village, chez lui, à Nazareth. Et comme il le fait ailleurs, il entre dans la synagogue. Imaginez l'attente des personnes qui sont là. Ils ont entendu parler de l'impact de l'enseignement de Jésus. Et aujourd'hui, il est là. Il est là au milieu d'eux. Alors le voici, qui se lève, on lui tend le rouleau du livre d'Ésaïe, et Jésus le déroule, et il s'arrête à un endroit où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Et alors il roule le livre, et puis comme le faisaient tous les rabbins, il s'assoit pour enseigner. Vous vous souvenez, je vous ai dit que les rois au nord étaient à peu près tous plus mauvais les uns que les autres. Eh bien, au temps d'Ésaïe, au temps où ce que cite Jésus est écrit, Dieu a mis un terme au royaume du nord. Les Assyriens ont envahi le royaume du nord et ils ont déporté la population. Mais au sud, la situation ne va guère mieux et commence à se dégrader. On a un sursaut avec Ézéchias, mais peu à peu le peuple s'enfonce sous Manassé. Et Ésaïe annonce que l'exil du royaume du sud va bientôt venir. Et puis il leur dit, mais en fait, cet exil, il est certain. Vous allez être condamnés par Dieu, vous allez être jugés par Dieu, il n'y a plus aucune issue. Et puis il a un autre message, il leur dit, mais cet exil, il n'est pas définitif. En fait, il va durer 70 ans, et puis il y aura un retour, et vous allez revenir. Et c'est de cela que ce texte parle. Le peuple va être restauré. Ésaïe est en train de parler de ça. Le peuple va revenir, il va être restauré. Jésus prêche ce texte et ses auditeurs savent de quoi il parle. Ils connaissent ces textes par cœur. Ils savent que le texte d'Ésaïe parle de la restauration du peuple. Mais ils savent une deuxième chose. C'est qu'il y a un problème. Le royaume est toujours divisé. Et eux, ils sont toujours au nord. Et pire que ça, non seulement le royaume est divisé, mais il n'y a pas de descendants de David sur le trône. Et pire que ça, c'est un Romain qui règne sur eux. Il dit, mais tu nous lis ce texte d'Ésaïe qui parle de la restauration du peuple, et nous, on est là, et ça ne marche pas. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez la tension. Ce Jésus qui prêche de synagogue en synagogue, ils entendent que quand il parle, les gens lui rendent gloire. Ça nous est dit dans les tout premiers versets. Il vient, il lit ce texte, et regardez leur réaction. Ils ont les visages braqués sur lui. Jésus, qu'est-ce que tu vas nous dire ? qu'est-ce que tu vas nous dire ? Et Jésus leur dit, aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue est accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'évangile est une mauvaise et une bonne nouvelle. Il leur dit, ce que vous avez entendu à propos de moi, c'est ça. Je suis celui que Dieu a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Dit autrement, je suis le Messie annoncé par Ésaïe. Je suis celui qui est le grand libérateur du peuple, celui qui guérit son peuple, celui qui lui rend la vue. Il leur dit, c'est vrai, vous êtes revenus conformément à la promesse 70 ans après l'exil, mais vous n'avez pas changé. Vous êtes resté le peuple qui est parti. Vous êtes resté avec les mêmes problèmes, vous êtes revenu avec vos problèmes en fait. Aujourd'hui, je vous amène la vraie délivrance, celle de celui qui vous a totalement asservi, le péché, les pauvres, les prisonniers, les aveugles, les opprimés sont les victimes du péché. Le péché nous appauvrit en nous séparant de Dieu, l'unique possesseur des cieux et de la terre. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait des pauvres sur cette terre quand nous avons un Dieu qui peut tout et possède tout ? Le péché nous appauvrit. Il nous oblige à compter sur nos seules ressources pour vivre en sécurité. Le péché nous aveugle, il nous cache Dieu, le Créateur et le Sauveur. Il nous fait croire que la seule vie qui vaille, c'est la poursuite d'un bonheur à conquérir ici et maintenant. Un bonheur que nous essayons de conserver à tout prix, au détriment des autres, s'il le faut. Il nous rend prisonniers de notre manière de vivre. Il nous rend prisonniers de nos addictions. Il nous rend prisonniers de nos propres certitudes qui deviennent des prisons, qui nous condamne à vivre dans un monde sans espérance. Le péché s'insinue au plus profond de nos vies et nous sépare totalement de Dieu. Il nous conduit à la mort, une mort sans aucun espoir. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais Jésus annonce une bonne nouvelle. Il est venu pour nous délivrer de cela. Il est venu pour proclamer une année de grâce. Mais à quoi est-ce que ça fait allusion, une année de grâce ? En fait, Dieu avait donné tout un ensemble de lois à son peuple. Et par exemple, tous les 7 ans, les dettes devaient être annulées. Si vous aviez emprunté de l'argent et que vous n'aviez pas fini de rembourser au cours de la 7e année, cette dette était annulée et vous ne deviez plus rien. Et en fait, ça limitait le fait qu'on puisse s'endetter trop lourdement, en fait. Et puis même si quand même, dans cette période, vous aviez réussi à vous endetter et que vous ne pouviez plus payer, eh bien, vous pouviez devenir l'esclave de votre créancier. Mais là encore, Dieu avait limité cet arrangement à 7 ans. Au bout de 7 ans, vous ressortiez libre de toutes vos dettes, libre de recommencer. Et puis il y avait une autre loi qui disait qu'au bout de 7 ans, on devait sonner de la corne de bélier dans tout le pays, pousser des cris de joie pour proclamer le jubilé, une année de grâce. Et à ce moment-là, toutes les terres devaient être rendues à la famille d'origine. Souvenez-vous, quand le peuple est entré dans le pays, il avait quoi ? Les mains dans les poches et pas grand-chose. Et Dieu a partagé le pays. Il a dit, tiens, telle famille va aller là, 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 là. Et Josué a fait ça et c'était équitable. Tout le monde avait de quoi vivre, etc. On a partagé le pays. Mais certains sont bons dans les affaires et d'autres flemmards et d'autres réussissent mieux et d'autres malades, etc. Et les choses se compliquent parce qu'on est dans un monde déchu. Mais tous les 50 ans, vos parents étaient méritants, qu'ils aient été malades, qu'ils aient été flemmards, qu'ils aient été astucieux, qu'ils aient été voleurs, on revenait au partage originel, en fait. Et le texte nous dit que ce n'était pas une charge pour le peuple, mais que c'était une bénédiction pour le peuple. parce que l'on aura mis sa confiance en Dieu et suivi ses prescriptions, Dieu bénira le peuple. Quand Isaïe écrit ce texte, il y a à peu près 700 ans qui se sont passés depuis que ces lois ont été proclamées. 700 ans, 14 jubilés, mais on n'en trouve pas trace. On n'en trouve pas une seule trace. On ne trouve pas une seule trace qu'un jour la loi ait été mise en œuvre. Elle existait, mais quand vous avez des terres que vous avez acquises, que vous avez payées, vous n'avez pas trop envie que quelqu'un vienne vous dire « Écoute, ça revient à la personne derrière. » Quand vous avez prêté à quelqu'un et qu'il n'a pas fini de vous rembourser, vous n'avez pas trop envie que... Et comme on n'a pas trop envie, eh bien en fait, on ne le fait pas. Et les lois n'ont jamais été mises en œuvre. En tout cas, on n'en a aucune trace. Les lois qui protégeaient les pauvres, les prisonniers, les aveugles, les opprimés, ont été bafouées. Et ça ne devrait pas nous étonner. Parce que seul un peuple qui aime son prochain comme lui-même peut vivre avec de telles lois. Seul un peuple qui aime son prochain comme lui-même peut vivre avec de telles lois. Et voici la bonne nouvelle de Jésus. Il leur dit, je peux le faire, je vais le faire. Je vais effacer vos dettes. Je vais vous libérer de l'esclavage de Satan. Je vais vous libérer de l'héritage de vos pères. Je vais vous rendre l'héritage de la vie qui a été perdue au temps d'Adam et Ève. Aujourd'hui, vous entendez cela, c'est accompli. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et regardez, le peuple est étonné des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Pour nous, c'est peut-être un peu obscur, mais pour eux, c'est des textes qu'ils connaissent bien. Ils comprennent ce que dit Jésus. C'est complètement clair dans leur tête. Ils comprennent ce que Jésus est en train de leur dire. Mais il y a un problème. On les voit presque se regarder l'un l'autre. Mais ce n'est pas le fils du charpentier. Ils comprennent, mais ils ne croient pas en Jésus. Il réalise ce qu'il dit, mais comment est-ce qu'il peut prétendre être ce qu'il dit? Comment est-ce que cet homme peut-il prétendre, ce fils de charpentier peut-il prétendre être le roi victorieux? Ils comprennent, mais ils le refusent. L'Évangile conduit au rejet ou à l'adoration. Et c'est là que tout se gâte assez rapidement. On aperçoit leur incrédulité, mais on voit aussi que Jésus la connaît. Regardez ce qu'il leur dit. Revenons au texte au verset 23. « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Prouve-le. Prouve-le. On ne veut pas entendre ta voix. On veut que tu nous montres qui tu es. On veut que tu fasses ce que tu as fait ailleurs. Et la réponse de Jésus ne se fait pas attendre. Je vous le dis, en vérité, aucun prophète, personne qui parle de la part de Dieu, n'est bien accueilli dans sa patrie. Et là, il leur raconte deux histoires. Deux histoires de deux païens, une veuve et un général syrien. Et là, on se dit, c'est la petite histoire, chercher le point commun entre la veuve et le général syrien. Ben, leur point commun, c'est qu'ils ont tous les deux été bénis par Dieu. Le fils de la veuve est ressuscité et le général syrien a miraculeusement guéri de la lèpre. Et un autre point commun, parce que pendant que le général syrien était malade de la lèpre, il y en avait plein en Israël qui étaient malades de la lèpre. Et il n'y en a aucun qui a été guéri. Et pendant que la pauvre veuve perdait son fils et le voyait ressuscité, il y avait plein de pauvres veuves en Israël. Et elles ont perdu leur fils aussi. Mais il n'y en a pas d'autres qui ont ressuscité. Il n'y a pas eu d'autres miracles. Et vous n'aurez pas d'autres miracles. Vous n'aurez pas d'autres miracles, vous savez pourquoi ? Bah parce que vous ne croyez pas à ma parole. Les miracles n'ont pas vocation à créer la foi. Ils ont vocation à démontrer l'autorité de Jésus pour ceux qui croient. Les miracles n'ont pas la vocation de créer la foi. Ils ont la vocation de démontrer l'autorité de Jésus pour ceux qui croient. Et eux qui étaient tous étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche sont maintenant en colère. Ils sont remplis de colère. Élie et Élisée n'ont pas trouvé en Israël la foi qu'ils ont trouvée chez les païens. Et Jésus leur dit, mais je ne la trouve pas non plus chez vous. Je ne trouve pas la foi chez vous. La grâce qui les a étonnés les met en colère parce qu'elle n'est pas liée à leur mérite. Elle n'est pas liée au fait qu'ils sont les compatriotes de Jésus. Écoute, on est du même peuple, toi et moi. On est du même village. On a grandi ensemble. Mais nous, on te connaît. On a été gentils avec toi pendant que tu étais là. Comment est-ce que tu nous traites ? Tu nous traites comme de vulgaires païens. Ces peuples qui méritent qu'une seule chose, la colère de Dieu lors du jugement final. Tu nous traites comme eux. Joël Bick dit ceci. Notre culture a interverti le sens du message des anges lors de la naissance de Jésus. Alors écoutez, les anges disent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et bienveillance parmi les hommes ». Notre culture dit « Gloire à l'homme dans les lieux très hauts et bienveillance envers Dieu ». Ça suffira. Nous avons inversé le message des anges. Leur colère est telle qu'ils ne peuvent plus supporter d'entendre ce que Jésus dit. Ils se lèvent, ils le chassent hors de la ville, et ce n'est pas encore suffisant. Ils vont même jusqu'à l'accompagner au bord de la montagne pour le précipiter. Ils veulent le tuer. Qu'ils se taisent. On ne peut pas supporter ce qu'il nous dit. Mais Jésus passe au milieu d'eux, et pour autant qu'on le sache, Jésus n'est jamais retourné à Nazareth. Pour autant qu'on sache, Jésus n'est jamais retourné à Nazareth. Quelques implications de ce texte pour nous aujourd'hui. Je voudrais vous raconter une histoire qui elle-même a été racontée par un pasteur. Ça se passe lors d'un culte en Angleterre. Et ce pasteur remarque que côte à côte, pendant le culte, se sont retrouvés par hasard, un ancien criminel qui s'est converti et le juge qui l'avait condamné à la prison. Et ce pasteur était très touché par la grâce de Dieu, que Dieu ait pu transformer la vie de ce criminel. Alors, à l'issue du culte, il va voir le juge et il lui dit « Oh, t'as vu qu'il était à côté de toi ?» Et le juge lui répond « Oui, c'est un miracle de la grâce. » Et le pasteur, tout content, renchérit, il lui dit « Oui, c'est merveilleux de voir comment... il a pu se convertir après une vie de crime. » Et le juge lui répond, « Non, mais je ne parlais pas de lui. Je parlais de moi. » Il dit, « C'est pas une grande surprise qu'un voleur soit devenu chrétien. Moi, ce qui me surprend, c'est que moi, je le suis. On m'a appris depuis que j'étais tout jeune à bien me conduire, à parler correctement, à prier, à aller à l'église. Je suis allé à Oxford, j'ai obtenu mon diplôme, je suis devenu avocat, juge, et je mets des criminels en prison. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Mais j'étais un pécheur. Pour moi, voir mon besoin de Christ est un miracle de la grâce. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Peut-être que vous ne voyez peut-être pas vraiment votre besoin de grâce parce que vous êtes bien élevé. Que vous venez à l'église depuis des années, que vous vous comportez bien. D'ailleurs, vous êtes assez choqué de voir comment les gens peuvent parler de Dieu dans ce monde, horrifié par la culture qui semble rejeter toutes les belles valeurs attachées au christianisme. Peut-être que on n'est pas si différent de ces disciples en colère parce que Jésus leur dit qu'ils ne valent pas mieux que ces horribles païen condamné au jugement final. Et l'évangile est alors une mauvaise nouvelle, parce que Jésus le dira un chapitre plus loin, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Si le ministère de Jésus est une mauvaise nouvelle pour les propres justes, il est aussi une bonne nouvelle pour les pauvres, les captifs, les aveugles et les opprimés. Paul a 4 ans. Et ce jour-là, c'est un peu spécial parce qu'il va au mariage de sa grande sœur. Alors sa maman lui a mis son bel ensemble, chemise, pantalon blanc, avec un beau nœud papillon. Ils ont passé du temps à la salle de bain. On a peaufiné la coiffure pour que rien ne dépasse. Vous voyez le truc, un peu comme moi ce matin. Et maman est heureuse. Elle voit son fils de 4 ans, tout vêtu de blanc avec son... C'est beau. Elle lui dit, écoute, on part dans une demi-heure, je passe à la salle de bain et je vais un peu me refaire un truc. Et puis, fais attention, hein, te salis pas. Bien sage, Paul passe 10 minutes à attendre et à réfléchir comment on fait pour ne pas se salir. Puis il commence à avoir faim. Alors, on va faire un petit tour à la cuisine. Là, il voit des cracottes. Ouais, sympa, les cracottes, ça ne salit pas. Mais les cracottes, tout seul, c'est pas très... Il y a aussi un pot de Benco, mais le Benco sans lait, c'est pas terrible. Un bol, un peu de lait, un peu de Benco. Et il s'assoit sagement à la cuisine. Et tranquillement, il trempe sa cracotte dans son lait chocolaté. Et il porte à la bouche une première bouchée et une première goutte tombe sur la chemise. Et il continue tranquillement et au fur et à mesure qu'il mange, d'autres gouttes tombent et tout à coup, il s'en aperçoit et est un peu paniqué. Il fait un geste brusque et renverse le bol et ça passe sur le pantalon. Il sait que ça va mal se passer. Alors, il va vers le chiffon de la cuisine, le torchon, et puis il commence à frotter. Et il mouille le chiffon avec l'eau et il frotte un peu plus fort et vous savez que ça se passe pas très bien, en fait. Je vous laisse imaginer la tête de la maman et j'ose pas répéter ces mots quand elle rentre dans la cuisine prête à partir pour le mariage. Peut-être que c'est votre cas, en fait. Vous savez que vous êtes pécheur, vous avez bien vu la tâche. Mais vous essayez de gérer. Vous faites tout ce que vous pouvez pour effacer le truc. Mais ça s'étale. Vous faites tous vos efforts pour lutter contre le mauvais caractère, l'emportement, la colère, l'envie, la jalousie, et j'en passe. Mais en fait, ça s'étale. Et au bout du compte, le péché nous accable, il nous désespère. Et il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, vous pouvez arrêter de faire des efforts. Vous pouvez arrêter d'essayer de gérer. Tout ce que nous faisons ne fait qu'aggraver la situation. Mais le sang de Jésus peut effacer cette tâche au plus profond de notre cœur. Jésus passe au milieu d'eux. Il refuse de mourir parce que son chemin, c'est de mourir sur une croix. Sur une croix où il dira à Dieu, c'est moi. Cet adultère, c'est moi. Cet orgueil, c'est moi. Ce mensonge, c'est moi. Quand il est dit que Jésus a été fait péché, c'est ça qu'il veut dire. Il dit que pour chaque crime que j'ai commis, chaque crime que vous avez commis sur la croix, il dit qu'il n'y en a qu'un à punir ici. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi. C'est moi qui mérite le châtiment. Je le prends. Aujourd'hui, c'est maintenant. Souvenez-vous, Jésus a lu ce texte d'Ésaïe, il a regardé tous ces gens qui l'entouraient et il leur a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et aujourd'hui, nous avons entendu cette même parole. Et elle nous a dit exactement la même chose. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Il y a 2000 ans, Jésus est réellement mort sur la croix pour aujourd'hui. Il est mort pour aujourd'hui. Pour que aujourd'hui, nous puissions nous saisir du jour de grâce. La grâce conduit au rejet ou à l'adoration. Laissez-la vous conduire à l'adoration. Mais je voudrais faire aussi une autre remarque pour nous qui suivons Jésus, nous qui avons déjà fait ce choix de suivre Jésus. Comment est-ce que ce texte nous parle aujourd'hui? Nous proclamons sa parole, nous annonçons l'évangile de la grâce et nous aurons sans doute la joie de conduire des personnes à l'adoration, de les voir renoncer à leur vie centrée sur elles-mêmes, de les voir renoncer à leur lutte contre le péché pour accepter que Christ est mort pour elles, de les voir suivre Christ. Mais nous allons aussi connaître le rejet et peut-être aussi la colère des personnes qui ne pourront plus supporter de nous entendre parler de notre Dieu et de sa grâce. Et cela peut concerner nos voisins, nos amis depuis si longtemps, nos familles, nos enfants, qui ne supporteront plus nous entendre parler de la grâce de Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire que si vous êtes dans ce cas-là, il y a aussi une bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort ce jour-là. Il est mort sur la croix pour nous préparer un avenir éternel. Vous savez, quelle est la première chose que Jésus fait une fois que nous sommes au ciel? Il essuie les larmes de nos yeux. Il essuie les larmes de nos yeux. Il y a des tristesses, des peines qui ne passeront pas sur cette terre. Vous annoncerez l'Évangile et vous serez rejetés pour cela. Et vous en payerez, vous en porterez le poids sur cette terre. Mais la première chose que Jésus fera au ciel, c'est d'essuyer les larmes de vos yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni peine, ni rien de semblable. Tout ça a une fin parce que Jésus a traversé cette foule et que nous verrons dans l'Évangile de Luc, à partir du chapitre 9, il dira « Moi, je vais à Jérusalem et je sais pourquoi j'y vais. » Aujourd'hui, c'est maintenant. Et je ne voudrais pas finir sans rappeler que pour nous aussi, aujourd'hui, c'est maintenant. Nous sommes appelés à racheter le temps, à ne pas le laisser nous échapper, nous filer entre les doigts, mais de nous saisir de toutes les occasions favorables ou non pour proclamer l'Évangile, pour prier qu'encore aujourd'hui, Dieu agisse dans les vies par sa parole et son esprit, les deux ensemble sur l'ordre du Père. Noah, jeunes sont partis au ski cette semaine et je me réjouis qu'ils puissent avoir la joie de dévaler les pentes. J'espère qu'on les récupérera tous en un seul morceau. Mais ce séjour est d'abord spirituel. C'est d'abord un enjeu spirituel. C'est d'abord un camp centré sur l'annonce de la parole. Pendant tous ces jours-là, ils vont entendre parler de Jésus. Ils vont découvrir Jésus au travers de l'évangile de Jean. Qui est Jésus? Choisis maintenant de le suivre. Et je vous encourage vraiment à accompagner ce camp par vos prières pour que l'Esprit accompagne la parole et agisse avec puissance. On vous a envoyé un info hebdo cette semaine avec un lien où vous recevrez des sujets de prière pendant toute la durée du camp. Si vous n'avez pas reçu l'info hebdo, si vous n'avez pas le lien, si vous n'avez pas machin, venez me voir et on fera en sorte que vous puissiez prier pour nos jeunes. Je voudrais moi aussi prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole, te bénir pour ton ministère, pour le fait que tu es venu sur cette terre. Et et que tu es venu de la part de Dieu avec cette parole certaine que tu es celui qui a accompli pleinement notre salut. Rien ne repose sur nous. Rien n'est impossible à gérer pour toi. Aucun péché n'est trop lourd. Aucune faute n'est trop grave. Sur la croix, tu as payé la totalité de nos fautes. Et nous voulons te remercier pour cela. Mais peut-être que des fois, nous sommes aussi un peu des propres justes qui croyons que nous gérons la situation. Et je te prie que tu nous convainques de renoncer, d'abandonner à notre propre justice pour accéder à la tienne. Sois toi-même notre justice. Sois toi-même celui qui nous rend juste auprès du Père, parce que toi seul, tu peux payer le prix par ta vie parfaite et par ta mort sur la croix. Nous te prions pour nos jeunes qui sont en camp cette semaine, nous te prions qu'ils apprennent à te découvrir, qu'ils apprennent à t'aimer, qu'ils puissent se consacrer à toi, décider de te suivre pour la suite de leur vie, que tu puisses susciter la foi dans leur cœur et transformer leur vie. Te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour ton si grand salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen.